Le journal, présenté par Hugo Charpentier.
Bonsoir à tous. Bruno Le Maire répond à Donald Trump sur la taxe sur les géants du numérique. Pour le ministre de l'économie, il n'y a aucune volonté de cibler les entreprises américaines. Une déclaration pour tenter de calmer le jeu après le coup de sang du président américain contre la France. Trump qui menace en représailles des rétorsions sur le vin tricolore. La canicule est derrière nous, mais sans surprise, elle reviendra. Contre les grosses chaleurs, comment les villes vont-elles lutter dans les années à venir? Début de réponse dans cette édition. Des arrestations de manifestants par centaines en Russie, nouvelle purge parmi les opposants, des personnes interpellées en marge d'une mobilisation à Moscou pour réclamer la tenue d'élections libres. Et puis les Tunisiens ont dit adieu à leur président, hommage national aujourd'hui pour honorer la mémoire de Essebsi, décédé cette semaine à l'âge de 92 ans. Emmanuel Macron a fait le déplacement. Enfin, 20 000 spectateurs, une centaine de joueurs et 3 millions de dollars de prix pour le vainqueur. Chiffre vertigineux pour une compétition de jeux vidéo. La finale mondiale du célèbre jeu Fortnite, ça se passe en ce moment à New York. Explication à la fin de ce journal. La France réplique donc à la Maison Blanche. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a répondu aux menaces à peine voilées de Donald Trump. Le président américain promet à la France des mesures de rétorsion sur le vin en représailles de la taxe sur les géants du numérique. Alors Bruno Le Maire s'efforce maintenant d'apaiser la situation et demande à Washington de ne pas tout confondre, Bastien Münch.
Ce sont deux sujets complètement différents selon Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie et des finances ne comprend pas pourquoi les États-Unis se sentent menacés par cette taxe sur le numérique.
Il n'a jamais été dans l'intention de la France de cibler spécifiquement des compagnies américaines. Nous avons dans le champ de cette taxe des compagnies américaines, bien sûr, mais nous avons aussi des compagnies européennes, nous avons aussi des compagnies françaises et nous avons aussi des compagnies chinoises. Donc vous voyez bien qu'il n'y a absolument aucune discrimination dans la taxe nationale française qui sera mise en œuvre dès cette année 2019.
Une taxe française provisoire en attente d'un réel accord international avec l'OCDE qui rassemble les pays les plus développés. Accord rendu encore plus fragile par les dernières déclarations de Donald Trump sur Twitter, mais Bruno Le Maire veut rester confiant.
Depuis 24 mois, il y a des pas de géants qui ont été faits. Maintenant, il reste le tout dernier pas, c'est le plus difficile, celui d'un accord des 7 chefs d'État au G7 de Biarritz sur une taxation universelle des activités digitales.
Et si les négociations se révèlent concluantes au G7 de Biarritz fin août, un accord international pour taxer les géants du numérique pourrait naître dès la fin d'année prochaine.
Et en attendant, les menaces de rétorsion sur le vin français formulées donc sur Twitter par Donald Trump suscite l'inquiétude des acteurs du secteur. Diane Berger, bonsoir.
Bonsoir.
Inquiétude légitime, Diane, car les États-Unis, rappelons-le, constituent le principal marché d'exportation pour nos vignerons.
Effectivement, à l'étranger, une bouteille de vin français sur 5 est vendue aux États-Unis. Alors, Philippe Casteja, l'ancien président de la Fédération des exportateurs de vins et de spiritueux de France, est inquiet. Il regrette que le secteur soit le bouc émissaire du président américain.
Nous exportons aujourd'hui 1,7 milliard d'euros vers les États-Unis. Et si on regarde cette taxe du numérique, j'aimerais que les États-Unis comprennent qu'il s'agit d'une taxation globale et non pas une taxation vers les produits uniques d'un seul pays.
Et les ventes de vin français ne devraient quand même pas s'effondrer pour autant. Selon Jean-Marie Cardéba, économiste spécialisé dans le vin à l'Université de Bordeaux, d'après lui, le prix d'une bouteille ne devrait monter que de quelques centimes.
Les vins qu'on exporte vers les États-Unis sont des vins relativement moyens, haut de gamme. Donc sur des vins qui se vendent in fine sur le marché à 30 ou 40 dollars, je vous laisse imaginer l'impact. Il est marginalement nul, finalement. Je crois qu'il y a plus un effet d'image. Le vin est intimement lié à la culture française, à l'histoire de la France. Au-delà des centimes dont on parle ici, c'est avant tout une attaque sur un symbole de la France.
Car en effet, c'est l'un des produits emblématiques du pays. Selon France Agrimaire, le vin français fait partie des plus vendus dans le monde, avec ceux de l'Italie et de l'Espagne.
Diane Berger pour France Culture. Le ministre des Affaires étrangères français débute aujourd'hui une tournée en Amérique latine. Jean-Yves Le Drian se rend d'abord au Chili avant d'aller au Brésil où il sera reçu par Jair Bolsonaro. Jean-Yves Le Drian a prévu d'aborder avec lui les questions environnementales, dossier sensible alors que le président brésilien a dit sa volonté de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. La permanence d'un député de la majorité prise pour cible par des gilets jaunes, ça s'est passé à Perpignan en marge d'une mobilisation qui a réuni plusieurs centaines de personnes. Le député LREM Romain Gros était à son bureau quand une poignée de manifestants ont brisé les vitres de sa permanence. Un début d'incendie a même été déclenché à l'intérieur du local. Le feu a toutefois été maîtrisé grâce notamment à l'intervention de plusieurs gilets jaunes. Après une semaine à la limite du supportable, la fraîcheur est enfin de retour en France. Oui, la canicule est derrière nous, mais pour combien de temps? Pour lutter contre les épisodes de grande chaleur appelés à se multiplier sous l'effet du changement climatique, il va falloir de la verdure. La végétalisation des milieux urbains devient notamment un enjeu majeur, idéal pour éviter la clim et ne pas aggraver le dérèglement climatique. Planter des arbres, est-ce vraiment efficace, Lisa Guyenne?
C'est la nouvelle solution miracle dégainée par de nombreuses villes. Planter des arbres permettrait de faire baisser la température de 2 à 4 degrés autour de ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Une perception en réalité pas tout à fait exacte selon Philippe Rame, architecte dans le domaine des aménagements durables.
Bien sûr que quand on est à l'ombre de l'arbre, il fait frais. Mais en réalité, au-dessus de l'arbre, les feuilles sont noires, sont sombres. C'est-à-dire qu'en réalité, ça surchauffe au-dessus. Et donc, ça fait plutôt monter les températures qu'autre chose.
Planter des arbres n'est pas pour autant néfaste, évidemment. Mais pour une politique d'urbanisation efficace, il faut réfléchir plus globalement, selon Jean-Jacques Terrain, architecte urbaniste et auteur de plusieurs travaux sur le changement climatique dans les villes.
On ne peut pas dire que les arbres vont servir à rien. On dit simplement qu'il faut prendre le problème dans sa complexité et non pas faire des petits bouts de trucs qui se succèdent au bout de trucs et qui ne donnent rien à la sortie.
Enfin, il ne faut pas planter n'importe quels arbres si l'on veut préserver l'écosystème qui tourne autour de la végétation, comme l'explique Augustin Rosenstiel, architecte spécialisé dans l'agriculture urbaine.
Les plantes sont comme des habitats pour la faune. Et quand vous introduisez d'autres plantes, eh bien, ces espèces peuvent mettre 10, 50, 500 ans à les reconnaître pour nicher, faire leurs petites affaires, enfin voilà, les habiter. Et aujourd'hui, les espaces verts d'Île-de-France, qui donc ont doublé depuis un siècle, ils sont constitués à 95% d'espèces qui ne sont pas reconnues par la faune francilienne de notre région.
Car tout comme la question de la chaleur, celle de la biodiversité reste cruciale. En moins de 30 ans, l'Europe a perdu 80% de ses insectes et plus de 400 millions d'oiseaux.
Explication signée Lisa Guyenne. Boris Johnson persiste et signe. Le nouveau Premier ministre britannique vante une nouvelle fois les mérites du Brexit. Une énorme opportunité économique, a-t-il dit lors d'un discours prononcé cet après-midi à Manchester. Boris Johnson, qui pourrait d'ici peu, selon les observateurs, convoquer des élections dans l'espoir d'élargir sa majorité au Parlement. Ils étaient venus réclamer devant la mairie de Moscou des élections libres. Plus de 500 opposants ont été interpellés lors d'une manifestation dans la capitale russe. L'opposition au Kremlin dénonce l'éviction des candidats indépendants à l'élection locale prévue en septembre prochain, Léo Vidal.
Journée décisive en perspective à Moscou, où l'opposition russe a appelé à une manifestation massive cet après-midi en plein centre-ville, malgré l'interdiction des autorités. En cause, l'éviction de ses candidats des élections au Parlement de la ville de Moscou, une échéance à laquelle l'opposition s'était préparée depuis longtemps et pour laquelle elle espérait surfer sur un mécontentement grandissant de la population russe, comme nous l'explique Ivan Jdanov, l'un des candidats de l'opposition à ces élections.
C'est un crachat à la face du peuple. Tout le pouvoir n'existe que par le mensonge. Et plus les gens réalisent ce qui se passe, plus les gens vont se dresser contre eux. Et à la fin, nous aurons la liberté, comme en France après votre grande révolution bourgeoise.
Mais le 14 juillet dernier, la commission électorale a invalidé la candidature d'Ivan Jdanov, en même temps que celle de pratiquement tous ses camarades, alors que dans le même temps, elle validait tous les dossiers des candidats pro-Kremlin. Depuis, les opposants multiplient les recours, appellent à descendre dans la rue. Le 20 juin, c'est plus de 20 000 personnes qui ont défilé dans le centre de Moscou pour exiger la participation de leurs candidats aux élections. Pour l'instant, sans résultat. En fait, c'est même le contraire qui s'est produit. Arrestations, inculpations pour entrave au bon fonctionnement des commissions électorales, perquisitions dans leur QG de campagne et à leur domicile, interrogatoires nocturnes, pression sur leurs familles. L'arsenal répressif mobilisé contre les candidats d'opposition est vraiment d'une ampleur inédite. Un but ? Décourager la participation à la manifestation de cet après-midi. Mais malgré les pressions, les opposants comptent bien maintenir leur mobilisation. Et le nombre de manifestants qui descendront aujourd'hui dans les rues de Moscou en dira très long sur la capacité de l'opposition russe à mobiliser et peut-être à faire reculer les autorités.
Léo Vidal à Moscou pour France Culture, mais on le rappelle, en marge de cette manifestation, pour le moment, plusieurs centaines d'interpellations d'opposants, au moins 500 selon une ONG. Nouvelle journée de tension à Hong Kong. La police anti-émeute a tiré des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène pour disperser des manifestants opposés au régime proche de Pékin. La manifestation s'est déroulée là où même des hommes soupçonnés d'appartenir appartenir à des groupes mafieux avait agressé le week-end dernier des militants pro-démocratie. En Syrie, 15 civils ont été tués dans des raids aériens du régime sur la province d'Idleb, une région du nord-ouest encore aux mains des djihadistes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Au Burkina, au moins 14 morts, 14 personnes ont péri lors d'un attentat, un massacre perpétré dans un marché d'une ville du nord du pays. Les assaillants ont été décrits par des témoins comme des djihadistes. Les Tunisiens ont dit adieu à leur président, hommage national aujourd'hui pour honorer la mémoire de Béji Caïd Essebsi, décédé cette semaine à l'âge de 92 ans. Des obsèques qui ont eu lieu à Tunis et en présence de nombreux chefs d'État. Parmi eux, Emmanuel Macron qui a fait le déplacement. Le président français entretenait une relation particulière avec le défunt président Michel Picard.
L'amitié entre Emmanuel Macron et Béji Caïd Essebsi, d'un demi-siècle son aîné, peut paraître improbable, mais elle est née de rencontres franches. Reçu à l'Élysée, le nonagénaire tunisien avait su utiliser des mots d'esprit et des références littéraires qui, selon leurs entourages respectifs, ont fait mouche avec le président français. L'homme qui avait 30 ans au moment de l'indépendance tunisienne et de la fin du protectorat français fut ambassadeur à Paris dans les années 70 et c'est là qu'il aurait développé un attachement particulier à la culture française. L'an dernier, en visite d'État à Tunis, Emmanuel Macron avait souligné ses rapports rares et intenses avec le président défunt. Puis les deux hommes se sont ensuite à maintes reprises rencontrés sur des sommets internationaux. La connaissance fine des milieux diplomatiques et le sens du consensus du locataire de Carthage lui avaient permis de ramener la paix dans le monde politique tunisien à l'heure des tensions post-révolutionnaires. Cette vision d'une Tunisie apaisée a permis de maintenir les intérêts tricolores dans le pays, car les deux hommes en étaient bien conscients, une maturité politique va de pair avec un développement économique. Et là, le président tunisien n'a eu de cesse de réclamer à Emmanuel Macron et à la France d'en faire davantage, tout en saluant les nombreux soutiens affichés par Paris.
Michel Picard et en Tunisie, une élection présidentielle anticipée pourrait avoir lieu dès le 15 septembre prochain. C'est une première dans l'histoire du Tour de France. Un Colombien sera en jaune sur les Champs-Élysées demain à Paris. Egan Bernal, 22 ans, a conservé sa tunique de leader ce soir au terme de l'ultime étape de montagne. Étape raccourcie pour, à cause des conditions météo, seulement 59 km jusqu'à Val Thorens. C'est l'Italien Nibali qui remporte l'étape. Le Français Julien Alaphilippe, porteur surprise du maillot jaune pendant 14 jours. Eh bien, Julien Alaphilippe a craqué au milieu de l'ultime montée du Tour. Il recule du 2e au 5e rang du classement général. C'est un jeu vidéo qui suscite un engouement mondial depuis 2 ans maintenant. Fortnite vit sa première Coupe du Monde. Elle a débuté hier à New York et oppose des dizaines de joueurs. Fortnite, c'est un jeu en ligne que vos enfants connaissent sûrement. Un jeu de survie où il faut s'entretuer dans une zone de plus en plus réduite. Il ne doit en rester qu'un. Avec plus de 250 millions d'adeptes dans le monde, Fortnite a créé un engouement jamais vu dans les jeux vidéo. Avec l'aide, Maxime Fayol, il faut le dire, d'une communication très habile.
En 2 ans, Fortnite a conquis un territoire immense dans la communauté des jeux vidéo. Il a triomphé là où beaucoup ont échoué, explique Antoine Francard, directeur de Tournament, société spécialisée dans les tournois de jeux vidéo.
Ils ont réussi à passer un cap, je dirais, c'est le cap du grand public, puisqu'il y a des joueurs de foot célèbres qui font les célébrations du jeu quand ils marquent un but. Ils arrivent à attirer des DJ stars dans leurs tournois. Donc voilà, c'est vraiment un phénomène de société au-delà du phénomène de l'e-sport.
Le jeu est aussi attractif car il est gratuit au départ, mais il propose quelques ajouts payants. C'est un marketing attractif, notamment pour les plus jeunes, selon Antoine Francard.
Ils ont un marketing qui est beaucoup très moderne, très dans les couleurs. Ils mettent surtout beaucoup de contenu. Il y a des mises à jour très récurrentes et très conséquentes. Le jeu évolue tout le temps. Donc tous ces phénomènes font qu'il a réussi à prendre une ampleur supérieure à ses concurrents.
Dernier étage de la fusée Fortnite, créer des événements, des tournois pour fidéliser sa communauté.
La stratégie d'éditeur, ça va être d'ajouter du contenu, de créer des événements comme la Coupe du Monde Fortnite. On est passé dans une nouvelle dimension. Ils ont mis 100 millions de dollars de cash prize sur leur tournoi cette année. C'est vraiment du jamais vu. Ils font des tournois de qualification à 1 million. Donc il y a un peu l'idée qui est donnée à leurs joueurs que n'importe qui peut participer et tenter de gagner.
Et rien que sur cette finale, le cash prize, c'est-à-dire la récompense à gagner, atteint 30 millions de dollars, 3 millions rien que pour le vainqueur.
Maxime Fayol pour France Culture. Après la canicule, le mauvais temps menace l'est de la France. 22 départements, des Ardennes à la Savoie en passant par l'Alsace, sont placés en vigilance orange pour des orages. C'est d'ailleurs surtout dans les Alpes que de fortes pluies sont attendues. Partout ailleurs, le début de soirée est ensoleillé, les températures agréables, 18 degrés sur la pointe bretonne et jusqu'à 27 degrés sur les bords de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal, une édition préparée par Brice Garcia à la technique.